C'est toujours un plaisir de venir partager la parole de Dieu. Sauf qu'aujourd'hui, je comprends un peu ce que l'apôtre Paul a voulu dire, que c'est avec crainte et tremblement qu'il prêchait l'Évangile. Des fois, c'est pas toujours évident d'apporter la parole de Dieu parce qu'on sait qu'on a un message qui dérange. On a un message qui bouleverse des vies, qui transforme des vies, puis ça pousse le chrétien à aller encore plus loin. Puis l'apôtre Paul, partout où il allait, ça nous dit qu'il allait dans les synagogues, allait voir les groupes de chrétiens quand il repassait, puis il fortifiait l'esprit des disciples en leur annonçant la parole de Dieu, mais annonçant des choses, des fois, qui dérangent. Puis ce matin, j'ai eu des combats, cette nuit aussi, quand je dormais, dans mes rêves, par rapport que l'ennemi essayait de mettre une crainte dans mon cœur pour vous partager cette parole-là. Sauf que on n'a pas à avoir la crainte des hommes, puis on n'a pas à avoir la crainte de l'ennemi, et on n'a pas à l'écouter notre chair. Ce qu'on a à faire, c'est de prêcher avec vérité le message de l'Évangile, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le message qu'on va parler ce matin, le titre du message, c'est « Avancer pour le royaume ». Ça va être bâti sur le verset dans Matthieu chapitre 13, qui nous parle de la parabole du semeur, à partir du verset 4. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être là. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de l'appel que tu as mis sur nos vies pour qu'on puisse devenir tes enfants. Nous sommes reconnaissants de que tu nous as révélé ta parole pour qu'on puisse accepter Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Je te demande, Seigneur, de continuer à ouvrir nos yeux sur ta parole, à ouvrir nos yeux, Seigneur, sur ce que tu nous as enseigné, afin qu'on puisse ajuster notre vie conforme à tout ce que tu t'attends de nous, Seigneur. Je te remercie de ce que tu vas faire ce matin, de ce que tu vas parler à mon cœur, et que tu vas parler au cœur de chacun de tes enfants. Je te demande, Seigneur, de nous saisir par ton esprit, de faire cette œuvre de conviction au milieu de nous. On s'attend sur ta grâce, Seigneur. Oui, amen. Alléluia. À partir du verset 4, tu nous dis, comme il semait, un semeur sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans de la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Savez-vous pourquoi que Jésus nous parle de cette parabole? Jésus est en train d'enseigner ses disciples, puis le message qui était adressé dans cette parabole, c'était à ses disciples que ça s'adressait. Il voulait là-dedans faire comprendre le cœur de l'homme et ses différentes réactions face à la parole de Dieu. Il voulait que les gens aient une prise de conscience. Il voulait que ses disciples aient une prise de conscience puis de faire attention de la manière qu'il était pour entendre ce qui était annoncé dans la parole de Dieu. Puis Jésus, un peu plus loin avec ses disciples, il leur explique qu'est-ce que ça voulait dire, cette parabole-là. Premièrement, il nous parle de certaines personnes qui, quand ils entendent la parole, ils négligent ce qu'ils entendent, puis aussitôt le diable vient puis enlève la semence. Ça nous parle de gens qui n'ont pas leur cœur ouvert, ils n'ont pas le temps. Je ne parle pas nécessairement que c'est des gens d'ici, c'est des gens qui ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu parler du salut, ils ont entendu parler de la vie éternelle, mais ils ne sont pas intéressés. Qu'est-ce que ça fait? La parole ne pénètre pas leur cœur. Elle tombe, tu peux y retourner une semaine ou deux après, tu leur poses la question. Ils n'ont même pas rien compris, ça ne l'a pas rentré, parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Il y en a d'autres, par exemple, qui ont reçu la parole, mais sans tomber en amour avec la parole. À quelque part, ils l'ont entendu, la parole. Ils l'ont reçue, ils ont commencé à marcher un bout dans la parole, mais ça nous dit qu'ils ont commencé à vivre des persécutions, des tribulations. Puis la parole, vu qu'ils n'étaient pas en amour avec, ils n'ont pas pris de racine dans la parole. Fait que dès qu'il est venu une persécution ou une tribulation, ils ont trouvé une occasion de chute. Ça veut dire qu'ils ont décidé d'abandonner. Il y en a d'autres, ils ont plus de foi. Ils la reçoivent, ça pousse dans leur cœur, ils marchent des bons bouts avec le Seigneur, ils grandissent dans la foi, ils vivent des expériences. Puis le Seigneur, il est content de les voir aller parce que ça commence à produire. Ça dit que la semence a commencé à pousser, sauf qu'elle est environnée d'épines et de ronces. Puis là, ils ont commencé à s'étouffer. On peut se demander qu'est-ce qui se passe avec eux autres. Ils étaient bien partis. Ils ont fait un bout avec la parole. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que la parole qu'on a reçue, c'est une parole vivante, c'est une parole puissante. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand tu reçois cette parole-là, c'est une puissance pour changer des vies, c'est une puissance pour transformer le cœur de certaines personnes. Et ces personnes-là ont reçu la parole, ils ont marché avec la parole, elle a commencé à pousser dans leur vie, sauf ils ont été arrêtés dans leur marche, ils ont été arrêtés dans leur course, puis ça n'a pas amené aucun fruit à maturité. Pourtant, le désir de Dieu, c'est que la parole pénètre, puis elle fasse son œuvre, puis que ses disciples viennent à maturité, puis qu'ils portent beaucoup de fruits. C'est ça le but de Dieu pour chacun de nous. Il veut qu'on ait beaucoup de fruits dans notre vie. Il veut pas qu'on se laisse étouffer. Il veut que la parole puisse pousser, puis malgré tout ce qui l'entoure, qu'elle continue à pousser jusqu'à temps que les fruits sortent. Dieu s'attend cela de chacun de nous. Y est-il possible qu'il y ait quelque chose autour de nous qui peut arrêter un chrétien de porter du fruit? Jésus nous l'explique un peu plus loin, dans Matthieu 13, 22. Il donne l'explication de c'est quoi qui était autour, ces épines et ces ronces-là, qui ont empêché le chrétien de porter du fruit dans sa vie. C'est écrit au verset 22. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, puis Luc ajoute, et les plaisirs de la vie, ça l'étouffe cette parole, ça la rend infructueuse. » Luc, il dit, il n'y a point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui fait partie des épines et des ronces qui peut bloquer la croissance d'un chrétien, c'est les soucis du siècle, la séduction des richesses, puis les plaisirs de la vie. Puis ça, cette parole-là est annoncée dans le temps de Jésus. Voilà les choses qu'on doit prendre garde aujourd'hui. Là-dedans, jouer trois combats possibles pour les chrétiens, surtout dans le moment présent, dans le contexte nord-américain. Sûrement aussi, selon le témoignage de Daniel qu'il a fait juste avant la réunion, qui parlait qu'il peut y avoir des églises entières qui vivent comme dans un relâchement, qui sont étouffées, ils ont des belles bâtisses, mais la vie de Dieu, la vie de la parole de Dieu est plus là. Ça peut exister des chrétiens où il n'y a plus de vie et qu'il n'y a pas de l'air à avoir de fruits de la présence de Dieu dans cette église-là. Dans ce passage-là, je vois comme trois situations que l'ennemi peut utiliser pour paralyser la route du chrétien. Puis vous donner un exemple de cela, je vous donne comme une image. Imaginez que l'ange Gabriel, qui est un messager de la part de Dieu, souvent, il a apparu à Joseph, il a apparu à Marie, il a apparu à Daniel. Il apparaissait à des moments précis dans l'histoire pour donner un message à une personne ou pour un peuple, ou pour le peuple juif en particulier. Imaginez que l'ange Gabriel, là, il reçoit un message de la part de Dieu pour aller dire que le peuple juif était pour se faire envahir par une armée étrangère, puis que là, son message était pour être adressé à un prophète, puis il fallait qu'il dise au peuple pour les avertir de ne pas se faire prendre par surprise. Il part, puis en chemin, il rencontre trois démons, l'ange Gabriel. Souci, séduction, puis plaisir. Puis il décide de s'arrêter, puis tu l'as coulé douce avec eux autres. Il commence à triper avec ces trois démons-là, souci, séduction, puis plaisir de la vie, comme un peu imagé. Puis pendant le temps qu'il est en train de perdre avec ces démons-là, le peuple juif n'a pas reçu le message, l'autre armée vient envahir le peuple juif, détruit tout le monde, puis l'héritage de Dieu est tombé à l'eau. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu dirait à l'ange Gabriel lors de son retour? Il serait-tu content de ce qui vient de se passer là? Je crois que ces trois démons-là font partie du quotidien qui environne les chrétiens d'aujourd'hui. Mais ça environnait les chrétiens de ce temps-là aussi. Et même dans ce temps-là, il y a des gens qui ont été empêchés d'être fructueux dans leur vie à cause de soucis, séductions et plaisirs. Puis dans la parole de Dieu, ça nous dit même de prendre garde parce qu'il y a plusieurs qui sont infectés par ces choses, ça les empêche d'avoir des fruits à maturité. Pourtant, le Seigneur, il y a plein de passages dans la Bible qui nous encouragent à se réveiller, à prendre garde, à faire attention, à s'exhorter, à s'encourager, à se stimuler, à se réveiller, à ce qu'on prenne conscience que ces pièges-là ou ces dangers-là nous environnent. On entend des messages semaine après année par-dessus année qui nous parlent de la séduction que le monde peut nous donner ou les choses que notre chair peut désirer ou même les tentations que le diable peut donner. Mais pour nous aujourd'hui, il y a trois critères qu'il faut regarder, avoir devant nos yeux. Trois choses qu'il faut avoir comme objectif, qu'il ne faut pas perdre si on ne veut pas embarquer ou être séduit par ces esprits-là. Les deux premiers, on va aller dans Éphésiens 4:13. Ça nous explique que Paul, il travaillait à prêcher l'Évangile, puis il prêchait aux Éphésiens de par la lettre, dans le but de les stimuler. Mais il y avait un but quand il cherchait à stimuler les enfants de Dieu. Il y avait un but quand il cherchait à les encourager. Il dit, au verset 13, le but, c'est juste que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans ce passage-là, on va voir le premier point qu'on doit viser en tant qu'enfant de Dieu si on ne veut pas se laisser arrêter. Premièrement, c'est d'atteindre l'unité de la foi. Ça, pour atteindre l'unité de la foi, ça sous-entend qu'il faut personnellement, chacun de nous, avoir une soif de la connaissance de la parole de Dieu. Avoir une soif de connaître la parole de Dieu. Si on veut arriver à l'unité de la foi, ça veut dire qu'on pense tout pareil dans la foi. Qu'on soit tous ensemble à l'unisson. Qu'on prêche toutes la même chose, qu'on parle toutes de la même chose, qu'on comprenne toutes la même chose, il faut qu'on ait en nous un désir constant de se nourrir de la parole de Dieu. Voyez-vous, tu peux croire en Jésus, tu peux l'avoir reçu comme sauveur, puis avoir une idée fausse sur le chemin à suivre. Dans Matthieu 7, le verset 13-14, il n'y a pas besoin d'aller le voir, je vais vous le lire. Jésus dit à ses disciples, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. » Voyez-vous, dans ce passage-là, Jésus est en train de dire à ses disciples, il y a deux choses qu'il faut trouver dans la vie d'un disciple. Il faut premièrement trouver la porte étroite et le chemin resserré. Puis ça nous dit qu'il y en a peu qui les trouvent. À quelque part, il ne faut jamais perdre de vue d'avoir de la vigilance à vouloir connaître la parole de Dieu, avoir une soif de la connaître. Il y a dans l'Église d'aujourd'hui beaucoup de bonnes paroles de foi qui est annoncées, mais il peut nous rester des pensées et des faux raisonnements que nous voulons garder. Qu'on n'accepte pas d'être transformé, qu'on n'accepte pas de les laisser rentrer, de nous pénétrer, qu'on ne veut pas vraiment que cette parole-là change notre vie. Même si les messages sont prêchés à toutes les semaines, il peut y avoir des choses qu'on s'empêche d'écouter parce que ça ne fait pas notre affaire. L'apôtre Paul, il dit, dans 2 Corinthiens 10:5, il dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Son désir à Paul, c'était de renverser les raisonnements de tout le monde qu'il rencontrait. C'était essayer de les convaincre puis de les changer d'idée afin qu'ils changent de direction. Tout ce qui s'élevait contre la parole de Dieu, lui, il travaillait à essayer de renverser ça. Parce qu'il voulait que tout le monde réalise qu'on doit mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques, lui, dans son épître, nous dit, dans Jacques 1:22, « Mettez en pratique la parole, puis ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Voyez-vous, Jacques est en train d'encourager les chrétiens à faire attention de la mettre en pratique, la parole, puis pas se laisser tromper pour s'empêcher de la mettre en pratique, en se trompant par des faux raisonnements. Tu peux être dans l'Église, tu peux avoir trouvé la porte sans vraiment comprendre c'est quoi le chemin. Il faut accepter que la parole de Dieu nous transforme. faut faire attention quand on est à l'église de ne pas fermer nos oreilles puis d'avoir hâte que le message finisse, afin que rien change dans notre vie. On doit accepter de sortir de notre zone de confort. Par là, on démontre notre amour de la vérité. Quand on est prêt à se laisser parler. Quand les messages sont annoncés en avance, on pense, ah, ben là, il est rendu telle heure, puis là, on regarde notre montre encore deux minutes après, puis on n'écoute pas ce qui est dit en avant. Ça l'empêche, la parole d'entrée, de transformer notre vie. Puis on est en train de s'empêcher de rechercher à l'unité de la foi. Un chrétien qui est infecté de ça, il va se convaincre que tout ce qu'il entend, là, c'était pour les autres. Ou c'était pour dans le temps de Jésus. Il peut venir un temps que la torture va être assez grande d'entendre des messages qui y mettent de la pression, que là, il finit par changer d'église. Il faut prendre garde de l'avertissement de Paul qu'il a donné à Timothée dans 2 Timothée 4, 3. Ça dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs selon leurs désirs. On est dans ce temps-là. On peut pas. Si on regarde juste dans le Québec, je crois qu'il y a au-dessus de 2000 sectes de gens qui prêchent des choses et que ces gens-là veulent entendre ce que ces sectes-là disent. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais sans vouloir se tourner vers la sainte doctrine. Mais ce qui est en coupé, c'est quand que des chrétiens qui se laissent infecter par cet esprit-là, puis ils sont empêchés d'écouter la sainte doctrine et de la pratiquer. Il faut prendre garde de s'embarquer dans les critiques et les chiolages sur les messages qui sont apportés par les ouvriers. Parce que les ouvriers qui sont placés devant nous, c'est Dieu qui leur inspire le message. Puis si on embarque dans le critiquage, dans le chiolage, puis d'analyser, puis de, on passe à côté du message que Dieu voulait donner pendant cette réunion-là. Puis on empêche la parole de nous pénétrer. Ça peut arriver qu'on ne comprenne pas, mais il faut prier Dieu qui nous révèle sa pensée. Parce qu'il y a un message dans... que Dieu veut donner dans chaque message qu'on reçoit. Un chrétien qui arrive à maturité, parce que c'est le but qu'on doit rechercher, tout à l'heure, ça nous disait, ça l'empêche de venir à maturité, mais un chrétien, quand il arrive à maturité, il est convaincu, puis il a soif de la parole qu'il entend, puis il continue à grandir. 1 Pierre 2,2, ça nous dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Si on regarde un exemple, il dit « désirer comme un bébé, un enfant nouveau-né ». Quand un enfant est au monde, puis tu y mets la bouteille, tu fais un qui touche le bord de la joue, puis tu as tout qui se tourne, puis il cherche la tétée, parce qu'il a désir, il désire son lait, il a soif. Il ne comprend pas pourquoi il a ce réflexe-là. Il comprend pas que ça va le faire grandir, puis il va grossir, il va prendre du poids, ça va lui communiquer de nourriture, sauf que il dit désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous, par lui, vous croissiez pour le salut. On a besoin de se nourrir spirituellement et d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Puis si on a ce désir-là, quand on entend une parole, de la recevoir, elle va rentrer dans notre cœur et elle va nous faire grandir. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est puissante pour renverser des forteresses, puis c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Y a-t-il un amen à cela? Le deuxième point pour voir si on arrive à maturité, c'est encore basé dans le passage qu'on vient de lire. Je peux vous le relire. Ça nous disait, « Jusque nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Le deuxième point, c'est la connaissance du Fils de Dieu. C'est le but à atteindre. Ça, là, le mot « connaissance », c'est pas juste connaître intellectuellement. Le mot connaissance, ça vient aussi dans le sens connaître dans une relation personnelle. Quand on voit dans la parole de Dieu, Adam connut Ève et enfanta un fils, mais le sens du mot connaître, c'est dans une relation intime que tout le monde comprend, puis qui a découlé d'avoir un enfant. Mais spirituellement, chaque chrétien doit avoir une soif et un désir de connaître Jésus personnellement. D'avoir une relation personnelle avec lui. un contact qui va faire que ce contact-là va lui communiquer de grandir spirituellement. Pour arriver à cela, ça prend une vie de sanctification dans la recherche d'une communion avec Dieu. 2 Corinthiens 6, le verset 17, et quelques versets plus loin, ça nous dit, c'est une exhortation que nous est donnée par Paul aux Corinthiens, afin de réaliser que la sanctification est importante si on veut grandir dans une communion avec Dieu. Ça nous parle, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Là-dedans, on trouve une promesse incroyable. Dieu veut vraiment être pour toi un père, puis il veut que pour lui tu sois un fils et une fille. Dans une profonde intimité, dans une communion personnelle, personnalisée pour chacun de vous. Dieu veut développer ce contact-là entre vous et lui. Sauf, il nous avertit en même temps que cette promesse-là, il peut avoir des empêchements de l'avoir, puis il nous exhorte, Paul, il l'avait compris, Paul il exhortait les chrétiens à séparer de ce qui est autour de vous autres, ce que le monde peut vous offrir, ce que l'ennemi peut vous offrir, ou ce que votre chair même peut convoiter, puis il veut que vous recherchiez à vous purifier de toutes les sortes de souillures qu'il peut y avoir dans votre corps puis dans votre esprit. Ça nous dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Puis en continuant notre sanctification dans la crainte de Dieu, on doit rechercher à vivre une relation dans la crainte de Dieu. Autant que Dieu est amour, Dieu y pardonne, Dieu est compatissant, Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde, mais Dieu est aussi un feu dévorant, un Dieu qui est juste, un Dieu qui va même punir et châtier ses enfants afin de les corriger. Mais Dieu veut pas en venir là. Ce qu'il veut, c'est qu'on réalise qu'il veut développer une communion avec nous autres. Puis c'est le but que chacun de nous, on doit atteindre. Mais on a un travail à faire dans nos vies, c'est un travail dans la sanctification. Une purification des souillures de notre corps, puis des souillures de notre esprit. Ça, quand on parle des souillures de notre esprit, c'est pas réellement de notre, parce qu'on est composé de l'esprit, l'âme et le corps, mais c'est pas réellement de l'esprit comme tel qui est la souillure, c'est de notre âme, de nos pensées. On peut avoir des souillures dans nos pensées, on peut avoir des souillures dans nos émotions, des émotions impures, de vengeance, de colère, de destruction, ou des pensées de corruption, où notre corps peut avoir des désirs charnels dans les plaisirs, puis dans les convoitises, puis dans les péchés de toutes sortes. Je ne ferai pas une liste de tous les péchés, mais il faut réaliser qu'on a travaillé sur notre sanctification si on veut développer cette communion entre nous et Dieu. Le cœur de Dieu, c'est ce qu'on marche en communion avec lui. Il recherche des hommes qui sont attachés à lui de tout leur cœur, être prêts à tout abandonner. Dire que nous marchons avec Dieu et que nous avons les deux pieds dans le monde, on ne réalise pas qu'on est aux prises avec les démons, soucis, séductions et plaisirs, puis on ne marche plus selon la vérité, puis on est paralysé spirituellement. Ça nous empêche de porter du fruit. Jacques 4, verset 4 à 5, il dit, « Adultère que vous êtes, savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Ça parle pas d'aimer les gens, ça parle d'aimer ce qui se passe dans le monde, d'aimer les plaisirs, les convoitises de toutes sortes, les différentes options que le monde peut vous offrir. Dieu peut nous traiter d'adultères si on est en amour avec ça. Il dit, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Dieu a déposé son Esprit en nous, puis il est jaloux de ça. Dans un sens qu'il veut pas qu'on fasse n'importe quoi avec l'esprit qui est en nous. Il veut pas qu'on y fasse endurer n'importe quoi. Il veut pas qu'on le néglige. Il veut pas qu'on l'attriste. Quand on parle de sanctifier, ça veut dire se consacrer, puis de rechercher à vivre avec lui, puis pour lui. Les chrétiens qui veulent porter du fruit, Ils doivent être en relation constante avec Dieu, puis dans une recherche de rejeter, de renoncer aux choses qui sont dans le monde. Parce qu'on sait que les choses qui sont dans le monde vont l'amener à ce que Dieu trouve ça adultère. Pourquoi qu'il va nous traiter d'adultère? C'est parce qu'on est fiancé à son fils. On est sa future épouse. Puis il veut une épouse qui lui est fidèle, qui marche avec lui et pour lui. Puis il dit, si tu commences à triper sur ce qu'il y a autour de toi, t'es rendu un adultère à ses yeux, avant même d'être marié. Sachant que les souilleux de ce monde vont attrister le Saint-Esprit. Mais la fuite de ces choses va le réjouir. Éphésiens 4:30, ça nous le dit, n'attristez pas l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Est-ce qu'on fait encore attention à cela, de ne pas l'attrister? À chaque jour, à chaque moment de la journée, de ne pas penser à des choses qui pourraient l'attrister parce qu'il est en dedans de nous, il entend tout ce qu'on pense, de ne pas avoir des émotions ou des sentiments qui ne sont pas les seuls qui sont comme en Jésus-Christ, les sentiments de colère, de haine, de vengeance, des émotions, des choses qui sont impures, ou avoir une conduite, des paroles qui sont des choses qui l'attristent, ou dans notre conduite à faire des choses qui l'attristent. Galates 5, ça nous dit, verset 24-25, « Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Puis si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Si on le sait qu'on peut vivre par l'Esprit, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, que notre esprit est ressuscité, puis qu'un jour on va avoir la vie éternelle. Mais si on vit par l'Esprit, il faut aussi marcher par l'Esprit. L'Esprit veut nous communiquer une autre vision des choses. Il veut nous conduire dans d'autres pensées, des pensées pures, tout ce qui est vrai, honorable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange, ça doit être dans nos pensées. Il veut nous donner des sentiments qui étaient en Jésus, que la Bible nous enseigne à imiter et à avoir les sentiments qui est en Jésus. Il veut nous amener à vivre une vie sur la terre dans une recherche de sainteté et d'appartenance à lui. Il veut nous aider même à se révéler pour qu'on réalise ce qui ne fait pas plaisir puis ce qui l'attriste, afin qu'on rejette ces choses-là pour qu'on recherche des choses qui vont lui être agréables et que par la suite, Dieu va être prêt à venir développer cette relation de père et de fils ou de fille. Mais pour ça, sommes-nous intéressés d'abandonner notre vie? Quand on dit notre vie, c'est pas d'aller se suicider, mais d'abandonner tout ce qui fait partie de notre vie. Notre temps, notre argent, nos buts, nos objectifs, tout afin de vivre pour le royaume de Dieu. Dans Matthieu 16, 24 à 25, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Puis Jésus est en train de dire ça à ses disciples. C'est comme s'il pose une question. Vous voulez venir après moi? Renoncez à vous-même. Prenez votre croix et suivez-moi. Celui qui va perdre sa vie dans cette vie, la sauvera, puis va la retrouver pour la vie éternelle. Mais ça nous dit aussi que celui qui veut la garder, sa vie, la perdra. Plus que nous recherchons cette marche avec l'Esprit, plus que nous porterons du fruit. On va avoir du fruit qui va venir à maturité. Le tien amène à cela? Je ne savais pas si vous étiez tout endormi. Le troisième point de maturité, c'est d'avoir l'amour des âmes perdues, l'amour de ceux qui nous entourent. Au point d'avoir une vision de vouloir faire des disciples. Parce que c'est ce qui animait Jésus, et ce qui animait les apôtres, et ce qui animait aussi les épîtres, les écrits, tout ce qui était là, c'est dans le but qu'il y ait plus de monde sauvé, puis dans le but qu'une fois qu'ils sont sauvés, ça devienne des disciples. La maturité spirituelle, ça se démontre dans notre intérêt pour les œuvres et pour le royaume. Ceux qui disent qu'ils sont spirituels, puis tu regardes leur vie, Puis ils font rien de la semaine pour faire avancer le royaume de Dieu. Ils sont pas spirituels, ils sont encore dans l'immaturité spirituelle. Ben, ils ont besoin de réaliser que Dieu les a rachetés pour qu'ils portent du fruit pour son royaume. Jésus nous encourage à considérer l'ouvrage à faire dans sa moisson. Dans Jean 4:35, ça dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Jésus, tout de suite au début, il a exhorté ses apôtres, ses disciples qui étaient là. Vous dites que 4 mois pour la moisson, mais vous parlez de la moisson terrestre, la moisson de culture du blé ou de l'orge ou du maïs. Mais dis-moi, là, je vous dis, regardez, là, puis il y a déjà des champs en train de blanchir pour la moisson, puis il parlait d'une moisson spirituelle, puis il voulait que ses disciples aient une vision sur la moisson spirituelle. Quand il parle de moissonner, ça veut dire de rechercher les âmes qui sont attirées par son Père, puis en faire des disciples. Parce que ça nous le dit que nul, dans Jean 6:44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est le Père qui va attirer les gens. Mais il nous dit aussi, regardez ces champs-là, puis allez moissonner, puis allez chercher de ces brebis-là, puis en prendre soin. Puis pour nous donner une image de ça, Jésus nous parle d'une parabole. Que le royaume des cieux est semblable à un vigneron, un propriétaire d'une vigne. Dans Matthieu 21, vous allez retrouver ça au verset 33. Jésus dit, écoutez une autre parabole, il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Dans un vignoble, il y a beaucoup de gens qui sont embauchés pour plusieurs tâches. Il y a des gens qui préparent le terrain, il y en a d'autres c'est des gens qui sèment, il y en a d'autres c'est des gens qui arrosent, qui désherbent. Quand ça pousse, ils attachent les branches. Il y a des gens, après ça, qui arrivent au temps de la récolte, qui coupent les raisins. Il y en a d'autres qui mettent ça dans les boîtes, puis ils mettent les étiquettes. Il y en a d'autres qui prennent le stock, puis ils le transportent avec du transport. Il y a toute une organisation qui s'installe dans un vignoble pour pouvoir accomplir le travail au complet. C'est pas une seule personne qui fait tout l'ouvrage, c'est un groupe de personnes, chacun prend son poste, puis tout le monde se met la main à la tâche, tout le monde sont payés pour le faire, puis la production se fait, puis les récoltes sont faites, puis les ventes sont faites, puis l'argent, elle arrive au bout. Puis tout le monde sont importants dans cette immense tâche-là. S'il manque un employé dans sa tâche, tout le reste des employés est dérangé par ça, puis ça l'empêche la production. Moi, je crois que le royaume de Dieu, c'est la même chose. Quand Jésus nous a parlé dans la parabole qu'il y a un homme qui a planté une vigne, puis il l'a confié à des vignerons, puis là, il va revenir plus tard, venir chercher de son fruit, Dieu s'attend à recevoir quelque chose de son royaume. Il s'attend de recevoir quelque chose de ses ouvriers. C'est qui ses ouvriers? C'est nous autres. Chacun de vous, vous êtes des ouvriers engagés dans sa vigne, à travailler dans une tâche spécifique, et votre place est importante. Si il y en a un de vous autres qui fait pas sa job, ça dérange tout le reste parce qu'il y en a un autre qui est obligé de le faire. Puis des fois, si tu es une compagnie, tu as 10 employés, puis il y en a 5 qui sont malades une journée, ça va mal. Parce que la production ne sort pas. Tout le monde court à droite et à gauche, puis ça produit pas ce que c'est supposé de produire. Il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire pour sa moisson présentement. Il y a 2000 ans, Jésus a regardé, la moisson est blanche, elle est déjà prête pour la moisson. Puis on est encore dans le temps de la grâce, où il y a encore une moisson à faire. Puis le temps, il est avancé. Puis il reste plus grand temps. Puis il y a de l'ouvrage à faire. C'est là aussi qu'il est important de considérer ce qui empêchait la semence de porter du fruit. Les 3 démons que je vous ai parlé tout à l'heure. Souci, séduction, puis richesse et les plaisirs de la vie qui essaieront de vous paralyser dans vos œuvres en siphonnant tout votre temps. Parce que votre temps appartient au Seigneur, puis votre temps est pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu vous a racheté et vous ne nous appartenez plus. Votre temps doit être pour travailler à faire avancer le royaume de Dieu. Partout ce que vous passez, à tout moment de votre vie, de votre souffle qui vous reste, c'est pour le royaume de Dieu. Mais il y a trois démons qui sont là autour puis qui veulent vous faire siphonner votre temps pour vous empêcher d'avoir du fruit à maturité. Puis ils peuvent vous dire toutes sortes d'excuses pour vous paralyser. « Oh, j'ai pas le temps. Je suis pas appelé à ça. C'est pas mon ministère. Je suis trop vieux ou je suis trop jeune. Je suis pas capable ou j'ai peur. » C'est toutes des pensées qu'ils peuvent vous mettre pour vous paralyser et vous empêcher de vous impliquer personnellement dans son immense vigneron, dans son vignoble. Ces esprits-là, ils peuvent vous entraîner dans des pensées modernes de notre siècle. Là, ce que je vais vous dire là, regardez pas la vie des autres, regardez votre propre vie individuellement. Parce que faut analyser notre vie sans essayer de juger les autres. Mais avez-vous déjà réfléchi sur quelle est la quantité d'argent dépensée par des chrétiens en loisirs, en câbles, pour la télévision, des films, des sorties de toutes sortes, des fins de semaine, des voyages, des restaurants, sans compter les objets de luxe, puis les activités de divertissement que le monde d'aujourd'hui nous présente, qui n'était même pas là dans le temps de Jésus, puis dans ce temps-là, ça nous disait de faire attention de ne pas avoir une vie qui est étouffée par ce qui est autour de vous, puis aujourd'hui, il y a encore des milliers de choses encore plus que dans ce temps-là pour vous étouffer, pour vous siphonner votre temps, votre argent et tout ce que vous avez, pour vous empêcher de travailler pour l'œuvre de Dieu. Des centaines de milliers de dollars qui sont dépensés à chaque année, puis ça sera assez pour payer deux ou trois évangélistes à plein temps, aller travailler à évangéliser dans votre ville, dans votre environnement, puis aller chercher des brebis perdues. Quand je dis ça, regardez chacun votre vie, regardez pas celle des autres. Là, une couple de mois, Isabelle a témoigné que Dieu voulait tout notre cœur. C'est vrai. Mais il veut aussi tout notre temps, tout notre argent, tous nos biens, puis il veut aussi que l'on travaille pour lui, pour son royaume. Tout le reste là, des autres occupations, à part de travailler pour son royaume, c'est toutes des choses qui siphonnent votre temps, puis qui va mourir, qui va être détruit. Puis il ne restera rien de tout ce que vous avez ramassé matériellement, ou tous les plaisirs et les loisirs et toutes les mêmes choses que j'ai énumérées, il ne restera rien. Ça va être brûlé comme au travers du feu. Les seules choses qui vont rester l'autre bord, c'est qu'est-ce que vous aurez fait pour le royaume de Dieu. Dans la parole du vigneron, nous sommes ceux à qui Dieu va nous demander un résultat de la récolte. Parce qu'il est revenu s'attendant à recevoir une récolte de sa vigne, puis il s'adresse à ceux qui avaient eu la responsabilité de travailler, puis c'est nous autres. On a cette responsabilité de travailler à cette vigne, et c'est à nous autres, individuellement, que le Seigneur va nous dire, « Qu'est-ce que tu as produit pour mon royaume? » Le verset 34 nous dit, « Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. » Parce que Dieu s'attend à ce qu'il y ait un résultat. Le désir de Paul, il avait compris ça, puis tous les écrits que je viens de vous lire, la majorité des passages viennent de Jésus et de Paul. Lui, c'était de vouloir que les gens de sa race soient sauvés. Puis il s'est engagé à travailler et à évangéliser partout ce qui passait. Il avait la vision, il avait saisi, puis dans ses épîtres, il l'écrivait pour exhorter les chrétiens, travailler à sa moisson. Je vous pose une question aujourd'hui. Avez-vous trouvé votre place comme ouvrier dans sa vigne? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un vignoble, il y a toutes sortes de tâches à faire. Mais avez-vous trouvé votre place? Le Seigneur veut que vous ayez du fruit, personnellement, chacun de vous. Il veut que vous vous impliquiez pour son royaume. Il y a plusieurs ministères qui sont possibles dans l'Église. Parce que l'ensemble de l'œuvre de l'Église, C'est sortir, aller répandre la semence, arroser, cueillir, les élever, d'en prendre soin, puis les enseigner, d'en faire des disciples. Mais tout ça, là, c'est toutes des tâches à faire pour le royaume, mais on a toute une place, on a tout un appel, puis peut-être plusieurs appels, plusieurs capacités que vous avez, que vous pouvez vous investir. Ça peut arriver que vous n'ayez qu'un ministère ou une tâche que vous êtes capable, puis que vous avez la disponibilité de le faire, ça se peut. Mais ça se peut aussi que j'en ayez plus qu'une. Même dans les compagnies aujourd'hui, si on regarde dans une compagnie, il y a des gens qui ont plusieurs rôles à jouer, il y a plusieurs responsabilités, ils ont plusieurs choses à faire, puis le boss les exige. « T'as encore du temps libre ici, je vais t'en donner de l'ouvrage. » Tiens, il en donne de l'ouvrage. Ils rétrécissent le staff pour que tout le monde travaille le temps qu'ils sont payés pour. Puis des fois même surchargés qui sont obligés d'emmener de l'ouvrage chez eux. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'attend que vous trouviez de l'ouvrage pour le royaume dans votre temps que vous avez de disponible. Chacun de vous. Il faut comprendre, peut-être vous n'êtes pas tous appelés à être un leader dans un ministère. Mais si tu travailles pour accompagner un ministère qui est déjà existant, tu vas avoir les récompenses que ce ministère-là va avoir. Dans Matthieu 10, 41, elle dit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » S'il y a un prophète qui vient à toi et que tu le reçois comme si c'était un prophète, tu lui donnes la nourriture qu'il a besoin, tu lui donnes du lin, tu le reçois puis tu lui donnes le coucher puis tu en prends soin, lui, il est comme soutenu dans son ministère de tous les jours. Fait que en soutenant, en le recevant et en prenant soin, tu vas participer aux bénédictions et aux récompenses de ce prophète-là. Mais dans l'Église, il y a plein de ministères qui sont déjà en fonction. Des ministères pour l'école du dimanche, pour la formation de disciples, dans l'évangélisation, dans le ménage. Regardez tout ce qu'il y a à faire dans l'œuvre, dans l'Église et dans l'œuvre en dehors de l'Église. Ce n'est pas de l'ouvrage qui manque. Il y a trois buts qu'il faut toujours garder si on veut apporter du fruit dans notre vie. Il faut toujours avoir une soif de la parole de Dieu. Il faut toujours rechercher dans la sanctification à se rapprocher de la communion avec Dieu. Puis il faut toujours avoir un intérêt de plus en plus croissant de renoncer à tout ce qui nous entoure et d'investir toutes nos ressources pour faire avancer le royaume de Dieu en s'impliquant personnellement pour son œuvre. Et là, maintenant, ici, vous êtes impliqués dans Châteauguay et dans les villes et les villages environnants. C'est l'endroit, votre champ d'action que le Seigneur vous a placé. Tiens, amen à ça. J'ai une autre question. Quand on va mourir, est-ce qu'on va pouvoir dire la même chose que Jésus a dit quand il est venu à la dernière seconde de sa vie pour mourir? Jésus a dit en expirant, tout est accompli. Il avait fait tout ce que son Père l'avait prédestiné à faire. Quand il est venu sur la terre, Jésus est venu pour accomplir les prophéties qui étaient de venir en forme humaine, à travers de vivre parmi les humains et de venir prêcher la bonne nouvelle, de l'annoncer et de faire du bien, de délivrer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et sa vie a véhiculé jusqu'à aussi qu'il devait mourir sur la croix en prenant sur lui tous les péchés de l'humanité, en les expiant, en ressuscitant entre les morts. Il s'est remontré. Bon, ça, c'était son chemin. Quand il était à la dernière minute, à la dernière seconde de sa vie, il a dit « Tout est accompli ». Il avait fait tout l'ouvrage que son Père s'attendait de lui. La question, est-ce que je peux dire, quand je vais être prêt à quitter ce monde, j'ai tout accompli ce que mon Père avait préparé pour moi? Est-ce que j'ai tout accompli ce qui était dans ma force, dans ma capacité? Parce que dans Ecclésiaste, ça nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce qu'il n'y a ni pensée ni œuvre dans le séjour des morts. Il n'y a plus rien à faire après quand tu meurs. C'est pendant que tu es vivant, tout ce que tu peux faire avec tes capacités, fais-les. Tu as des capacités dans quelque chose, investis-toi là-dedans. Tu as peut-être des faibles capacités, prends ce qu'il te faut pour pouvoir augmenter tes capacités, puis tu vas produire encore des choses encore plus grandes si tu es fidèle dans ces petites choses-là. Puis Dieu va t'en confier encore davantage, puis tu vas porter beaucoup de fruits dans ta vie. On va, pendant que les musiciens s'avancent, on va faire une prière tout ensemble. Il faut que ça devienne une prière de tout votre cœur. Si vous voulez que les changements commencent dans votre vie, si vous voulez que les changements continuent dans votre vie, il faut que vous soyez prêts à recevoir la parole, à désirer, à marcher dans le chemin de sanctification, de recherche de communion avec Dieu et de travailler pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. Avant d'aller plus loin ici, je vais vous poser une question. Avez-vous pris le choix? Avez-vous fait, à quelque part dans votre vie, pris une décision d'accepter Jésus comme votre sauveur et votre maître? Des fois, on l'accepte comme sauveur parce qu'on veut être pardonné de nos péchés. On n'est pas prêt réellement à changer de vie et à être prêt à obéir au Seigneur, d'en faire un Seigneur. Je donne l'occasion ce matin, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur, mais que ce matin vous sentez, vous réalisez que la parole de Dieu vous demande de vous repentir de vos fautes et de changer de vie, puis que la parole de Dieu vous invite à recevoir Jésus comme votre Seigneur, parce que Jésus veut régner dans votre vie, veut être le roi, il veut transformer votre vie. Il veut vous faire avancer pour son royaume, puis il veut développer une relation personnelle avec vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur? Levez votre main. On va faire une prière ensemble dans ce sens. Des fois, l'occasion nous est présentée une fois ou 10 fois. On ne sait pas combien de fois qu'elle nous est présentée, mais quand que ça passe, saisissez-la. Puis s'il y en a d'autres parmi vous qui réalisent, c'est vrai que je me suis laissé séduire par les démons qui sont soucis du siècle, séduction des richesses, puis invasion des convoitises et plaisirs de la vie. Je réalise que je suis paralysé à cause de tout ce qui m'entoure, que ma vie a plus de fruits pour le royaume. Puis là, je veux faire un pas en arrière, puis Seigneur, je veux faire un pas en arrière, puis je veux me mettre à obéir à ta parole, puis d'investir tout l'ensemble de mes ressources que tu m'as confiées pour vivre pour ton royaume. S'il y en a qui sont prêts ce matin à faire ce choix-là, on va faire une prière ensemble, que ce soit une prière que vous faites de tout votre cœur, puis le Seigneur, il va changer vos vies. Votre vie va être transformée, puis par son esprit, il va vous conduire. En autant vous le laissez vous conduire, il va vous conduire, il va vous montrer tout ce que vous devez abandonner et tout ce que vous devez rechercher. Prions ensemble. Seigneur, je réalise ce matin que ta parole est vraie, que ta parole demeure éternellement et que c'est par tes paroles, Seigneur, qu'on va être jugé à la fin des temps. Et je te demande, Seigneur, ce matin, de pardonner tous mes péchés, de me pardonner de toutes les souillures ou les séductions ou les plaisirs que je me suis livré, puis que ça m'a paralysé. Je te demande, Seigneur, de prendre le contrôle de ma vie, de venir me donner les instructions que j'ai besoin afin de marcher pour ton royaume. Guide-moi dans ce que tu m'appelles à mettre en pratique tout ce que tu vas me confier, Seigneur, à m'investir, à travailler pour ton royaume. Je mets ma vie entre tes mains. Merci, Seigneur, que tu es là et que tu entends ma requête et que tu vas